soyez les bienvenus avec moi. Oh, je suis ravi de te retrouver.
Bonjour à tous.
Daniel Morin, Jérémy Crézil, Tanguy Bassiro et nos invités Camille Chamou et Mickaël Youn.
Ouais, on va mettre l'ambiance maintenant parce que c'est pas avec le sujet du téléfilm.
À quand le 2
suite, ouais.
Bon, si, il peut, non, il peut y avoir un 2.
Il n'empêche.
Il n'a pas fini.
Il n'empêche que c'est bien de l'avoir fait. Mais waouh, on va en parler. Camille et Mickaël, d'abord, moi je voulais savoir votre réaction. C'est un film qui passe ce soir à 21h sur TF1, Le jour où j'ai brûlé mon cœur. Et c'est une histoire vraie. Je voulais savoir votre première réaction, Camille, lorsque vous avez reçu la proposition d'incarner la maman de cet adolescent qui s'est immolé par le feu. Je le précise, hein, parce que on peut s'immoler autrement que par le feu. C'est pas un pléonasme de dire par le feu. Immoler, c'est la notion de mourir par sacrifice, de vouloir se donner
c'est
la mort.
C'est plus religieux même. C'est plus
la base. Oui. On peut s'immoler par l'eau.
Par l'eau.
Je savais pas, moi. Ouais.
C'est pas un pléonasme. Non. Pour en revenir, donc, quelle a été votre réaction
Était harcelé à l'école.
Parce qu'il était harcelé, exactement. Ma réaction, j'ai tout de suite lu. Je me suis dit, bon, pas de jugement, parce que mon agent m'a appelé en disant, je te préviens, c'est pas de la rigolade. Hein. là, je sais pas, c'est sans vote. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un ado qui se fout le feu et puis tu es sa mère. et j'ai dit, bon, tout de suite, je savais que c'était une histoire vraie parce que je me souvenais d'avoir entendu Jonathan Destin raconter son témoignage à la radio. Ouais. Il y a 3-4 ans, j'avais entendu déjà ce garçon. Et donc, je me souvenais de l'histoire. Et j'ai lu le scénario. Et déjà, ce qui m'a beaucoup plu... Alors, j'ai été très bouleversée à la lecture du scénario. Mais j'ai pas trouvé ça pathos. C'est-à-dire que j'ai... En fait, tout de suite, dans le scénario, il y avait cette voix-off du garçon qui racontait l'histoire.
Jonathan Destin.
Qui racontait l'histoire, puisque le choix du téléfilm...
Qui s'appelle vraiment Destin.
Qui s'appelle vraiment Jonathan Destin. Et c'est quand même assez
vraiment
ironique.
Jonathan.
Et en fait... Et en fait, il y avait ce truc de choisir d'entamer la narration par la voix du garçon... qui dédramatisait qui mettait une petite distance fictionnelle. Mmh. Et c'était très, et ça rendait l'histoire digeste. Et du coup, moi, j'ai pas eu cette espèce de truc de c'est hyper sombre, c'est effrayant, alors que le sujet est terrible. Il y a une espèce de conscience tout le temps avec la voix de ce garçon, et ça m'a énormément plu.
Mickaël, pareil, un sentiment. Vous êtes un peu le héros. Non mais on va pas tout dévoiler.
Spoiler.
Non, un peu le héros quand même, parce que vous êtes un CPE qui se dit il y a quand même quelque chose à faire, et c'est pas tous les CPE qui vont chez les parents. D'ailleurs, c'est dit même dans le film, c'est pas tous les CPE qui prennent à cœur comme ça une affaire et qui se dit il faut gratter, il faut trouver pourquoi.
Non mais indépendamment du rôle, moi j'essaye. Alors je sais pas si j'y arrive. À chaque fois, mais j'essaye quand on m'envoie un scénario de lire juste le scénario, c'est-à-dire l'histoire, et de pas lire que mon personnage en disant bon alors là je suis pas à la 4 pages, ok donc ça c'est pas terrible, la fin je suis pas là, moi je vais dire non mais parce que ça peut arriver, c'était peut-être un peu réducteur mais ça arrive quand même.
D'accord.
Et en tant que père de famille, quand on vous envoie un scénario pareil qui parle donc du harcèlement scolaire, qui était un sujet que je connaissais pas particulièrement, même si ma petite fille est déjà rentrée 3-4 fois en larmes de l'école, mais d'un coup vous dites tiens, on me propose quelque chose de nécessaire. Il faut dire oui parce que il faut que ce type de projet existe et c'est bien de se retrouver dedans aussi parce que voilà, ça vous permet aussi de progresser en tant qu'être humain, pas seulement d'un point de vue artistique.
Très bien. Alors on va continuer de parler évidemment de ce film qui passe ce soir 21h sur TF1, mais d'abord faisons connaissance avec Camille et Mickaël, voyons si tout le monde autour de cette table, connaît par exemple.
Il est venu Tom Villa ou pas? Il est là aujourd'hui?
Là, non.
Ah, il est moins présent que Daniel Morin.
Daniel est très silencieux.
Lors d'une fête Canal au Festival de Cannes, à qui Camille Chamou, et tu ne dis rien Camille, à qui Camille Chamou a-t-elle reproché de se goinfrer au buffet?
Dingue, t'es cette anecdote.
Bah, un patron de Canal.
Bah ouais.
Belle-mère,
Lescure.
J'ai le droit de jouer, j'ai le droit de jouer aussi. Harvey Weinstein.
Non, mais pas, ça aurait été drôle. Non, c'est ça. Oui, non, Tom, t'as raison. Carrément à Bertrand Meheux.
Ah, ouais, Bertrand Meheux.
Exactement.
Le PDG.
Bah, c'est-à-dire que les PDG des grosses boîtes, on connaît pas leur tête. c'est pas, ils sont pas hyper médiatisés. Mais oui,
ah oui,
bah
moi,
c'était le PDG de tout le groupe Canal. Bertrand Meheux. Et c'est vrai qu'il passait au buffet. Écoute, il était devant moi. C'était ma première soirée.
Et la
un peu officiel au festival de
c'est
et là
drôle.
Depuis bon et ce type était juste avant moi et j'étais un peu stressée donc j'avais un petit peu picolé j'avoue et le mec était juste avant moi et il y a une énorme assiette de saumon mariné qui a l'air délicieuse et il prend une tranche. Deux tranches, il restait quatre tranches.
Va, ouais.
Trois tranches.
Oh, mais dis donc.
Je dis, mais tu vas voir qui va prendre la dernière tranche, le mec. Et il avait l'air d'un petit monsieur, un peu comme ça. Je me disais, c'est un gratteur de buffet, le mec. Et je lui dis, mais t'as qu'à bouffer tout le saumon.
Bah, c'est moi qui
et
l'ai payé.
Et il se retourne et il dit, c'est moi qui l'ai payé.
Ah mince.
Alors déjà, la phrase, elle est pourrie quand même. C'est moi qui l'ai payé, pardon, ouais. Monsieur Meheux, avec tout respect
que je vous donne. Un cours de récréation. C'est moi qui l'ai payé.
Non, mais c'était une petite répartie parce qu'il avait un petit sourire et il m'en a pas trop voulu. Il m'en a pas voulu. Mais vraiment, en plus, je suis j'ai fait, oui, c'est ça. Bon, je retourne à ma table et là, il y avait l'attaché de presse qui me dit. Mais qu'est-ce que t'as raconté à Bertrand Meheux?
Il t'adore.
Et je dis, alors rappelle-moi qui est Bertrand Meheux, le PDG du groupe.
C'est, bon, c'est le mec avec qui t'as rendez-vous
grave.
Demain pour signer ton contrat.
Voilà, c'est ça.
Il a racheté deux saumons.
J'adore qu'on connaisse cette anecdote.
Souvent, c'est les patrons des très grandes boîtes, comme ils ont l'habitude de n'avoir que des bénis oui-oui en face, dès qu'on leur parle mal ou qu'on les remet en place,
bah, toi,
oh là là, je suis fan. Il m'a claqué la porte de nez, il m'a traité de connard.
Toi et Nicolas Taverneau à l'époque.
Exactement.
Exactement
bien
ça.
Sûr.
À 5 ans, justement, Michael Youn, qu'allait demander Michael au guichet de la poste à 5
des
ans.
Des clopes.
Non, 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 oui.
Des bonbons.
Des tranches de jambon.
Oui,
des tranches de jambon. Je bossais. Ouais. J'ai lu.
Ah, mais j'ai cru que c'était toi. Mais non.
Ah, c'était quoi? C'était quoi?
C'est
c'était
un
TEPA cap?
Non, c'est parce que on me martyrisait. Donc, c'est pas pour relier au sujet du harcèlement, mais
quand
on me
même.
Martyrisait. Mon cousin, pour se foutre de ma gueule, m'envoyait donc à la poste acheter du jambon. Donc, je suis arrivé, je dis bonjour madame, je voudrais deux tranches de jambon, s'il vous plaît. Elle m'a dit, mais ici, il n'y a pas de jambon, c'est la poste. Et donc, j'ai pleuré, je suis reparti.
Oh, c'est mignon.
Voilà. On va parler
et Bertrand
Meheux,
et Bertrand Meheux, elle est pas
bossée
à la poste.
Et,
et il m'a dit, on n'a pas de jambon, mais on a du saumon, si tu veux.
Et c'est moi qui l'ai payé.
Camille Chamou, et ça va intéresser tout le monde d'ailleurs, il n'y a pas que les filles d'ailleurs. Quel est son trio gagnant pour le sport, pour la mise en forme? Elle a trois.
Yoga.
Pilates.
Ouais.
Pilates.
Cours.
Ouais. Non.
Pierre.
Hit.
Non.
Pizza.
Alors yoga, pilates, oui.
Yoga, pilates. Et puis,
gainage, step. Fait du crossfit.
Non.
La danse.
Non.
La danse à barre au sol.
Barre au sol, joli.
Barre au sol.
Classique.
Deux, ouais. Deux sur trois, elle s'est gagnée. Ben non, mais vous faites très attention à votre forme.
Je faisais, hein. C'était vraiment une autre Camille.
Première
c'était une autre personne. Ah, une personne non, que j'ai bien connue.
Camille, je suis obligé de balancer.
Ouais, c'est vrai, balance.
Première chose que vous faites quand on se dit bonjour, elle me prend par la taille et elle évalue.
Ouais, ouais.
Non, c'est vrai que j'ai un tout petit peu, mais sans me rendre compte, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et je dis, pourquoi il rigole? Effectivement, j'étais en train de tâter pour voir si Nagui avait des poignées d'amour. Il n'en a pas.
Il est
parfaitement
top.
Non, mais vous faites gaffe à ça? À votre physique en permanence?
Non.
Je vais prendre mes œufs, tu l'avais tâté aussi. C'est pour ça que
tu as mangé trop de saumon, arrête. Je fais pas, c'est pas ça, c'est une question de forme physique, c'est-à-dire que la barre au sol, le yoga, c'est juste pour être en forme, mais c'est pas une question d'esthétique. Après,
d'accord.
Et puis j'ai beaucoup freiné, hein, sur tout ça.
Oui, depuis, t'es plus barre, tout
j'ai
court.
J'ai beaucoup freiné, mais je suis plus barre. Ouais. J'ai oublié au sol. Ouais, voilà.
Café Michael Youn, enfant, après s'être énervé contre sa maman.
Pas de barre au sol.
Il a dit qu'il aimait plus, qu'il divorçait.
Il a fugué.
Mais même moi, je suis pas au courant.
Ah, mais c'est un truc dingue.
Il a fugué.
Si c'est vrai, c'est dingue.
Il a choisi une autre maman?
Non.
Il lui a plus adressé la parole?
Non.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
Mais un truc dingue, je te le dis.
Dingue.
C'est pas juste je boude.
Il avait quel âge à peu près?
C'est pas vrai, je m'en souviens. Donnez-moi un indice, Nagui. Donnez-moi un indice.
À la bouche.
Et je bloque les paroles.
Non, je peux pas. Si j'ai un indice, c'est la réponse.
Ah ouais. Un truc dingue.
J'ai donné un indice.
En protestation. Oui.
Il s'agit de casser quelque chose.
Il a cassé la voiture.
Il a cassé non. L'urne. De...
Non.
Cassé la télé.
Non.
Il a cassé la gueule de sa mère.
Non.
Non. C'est la voix.
Je sais pas.
J'ai envie d'accepter, mais c'est pas ça.
Il a cassé quelque chose.
Il a cassé la porte d'entrée. Il a cassé un truc chez lui.
Mais même moi, je m'en souviens.
La voiture.
Oui, un truc chez lui.
Un vase, un truc, un objet important pour sa mère.
La maison.
Prêt. L'urne de mamie.
Un objet important pour sa mère.
Un mur porteur.
Non.
Une porte.
Du BA13, on rentre dans du technique.
Garage, une voiture. BA13, la tomette dans la cuisine.
Il s'en est pris quoi? Aux vêtements, aux armoires, au lit.
C'est un meuble, un cadre.
Ah, Mickaël a donné la réponse apparemment.
Quand
non, j'ai dit, il a cassé la tomette dans la cuisine.
Non.
La cuisine.
La cuisine.
Le four. Personne ne trouve.
Mais même moi, je l'ai pas trouvé.
Attends, c'est peut-être faux. C'est peut-être faux.
Ah. Ouais, parce ça dépend, t'as trouvé ça dans...
Dites que c'est faux.
Dans Closer, il y a des chances.
Tu aurais cassé tous les carreaux de la maison.
Bah, j'ai dit la baie vitrée.
Mais non, c'est pas vrai.
Les vitres.
Si, les vitres. T'as jeté des cailloux.
Non, j'ai pas jeté des, jeté un. Déjà, la désinformation.
Ma mère, alors je te donne la phrase. Ma mère me collait des baffes et moi après, je cassais des trucs.
Mais ça, c'est un résumé. C'est comme de dire... Je l'ai tué parce que j'ai mangé un croissant, ça ne veut rien dire. Pas du tout. J'ai un jour cassé un carreau chez moi parce que un voisin m'avait dit t'es même pas cap. Donc j'ai pris un caillou et j'ai cassé un carreau.
Le
jambon. Mais c'est, apparemment, c'est un carreau, une vitre ou un carreau au sol?
Une vitre.
Ah d'accord, ok.
Je l'ai pas cassé, je l'ai brisé.
En plus, je l'ai brisé.
Il y avait un trou, il y avait pas
un trou. Délinquant quoi.
Je sais pas où vous prenez vos informations, Nagui, mais je suis extrêmement déçu. Je pars immédiatement sur Europe 1.
Les un rock dans les un rock.
En plus,
ma mère me collait des baffes.
La gauche.
Et moi après je cassais des trucs. Une fois j'ai fracassé tous les carreaux de la maison avec des cailloux. Je ne supportais pas qu'on me donne des ordres.
Ah c'est possible.
Oui, c'est un petit peu réducteur.
Que lui disait souvent justement sa maman? Là je parle de Camille Chamou.
Tais-toi.
Non, quand elle voyait. Alors, c'était.
Ça, c'est vraiment probable.
Quand elle voyait sa fille sortir.
Ah, tu vas pas sortir comme ça, habillée comme une.
Exactement.
Bon, enfin.
Souillon.
Souillon.
Ça, c'est vrai.
Et
ma mère m'a toujours dit tu t'habilles comme une souillon.
Elle a pas dit aujourd'hui.
Non. C'est vrai. Elle me dit. Voilà, maintenant, je suis libre de sortir comme une souillon.
Mais non, mais vous êtes
ravissante. C'est vrai que ce mot m'a marqué.
Ouais, c'est ça.
Et après, je l'ai retrouvé dans un conte pour enfants.
Dans Les Visiteurs.
Dans Cendrillon. Cendrillon, c'était un souillon.
Non, c'était pas Cendrillon. La petite fille aux allumettes, ou je sais plus. Un conte pour enfants. Un moment, elle est habillée comme une souillon. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Pourquoi ma mère me dit que je suis habillée comme
une souillon? Qu'est-ce qu'on pleure, la petite fille aux allumettes?
Ah ouais,
incroyable.
C'est affreux ce conte.
C'est incroyable.
Et donc voilà, oui, non, c'est vrai. Ma mère a toujours trouvé que je prenais pas assez soin de moi.
Dit comme ça, c'est mieux. Et enfin, sur Mickaël.
Ouais, bah c'est faux. Un tissu de mensonge.
Pourquoi est-il souvent mal accueilli dans les hôtels à Lille?
Ah, parce qu'il est, il a tout ruiné à Lille. Il a interdit de citer là-bas.
Le mec, justement, dit j'ai pas cassé les carreaux.
Non,
c'est vrai que je suis persona non grata dans les hôtels de Lille.
Oh, à Lille, vous avez voulu jouer la rockstar.
Ouais, j'en ai fait 2-3 où c'est vrai, je me suis pas forcément très très bien comporté à l'époque avec mes camarades Vincent et Benjamin. Non, on avait fait des trucs marrants, on avait dégondé des portes, on avait fait caca dans le couloir, on avait essayé de murer la salle de...
Vous avez balancé le mobilier par la fenêtre.
Oui, mais parce qu'on voulait le réorganiser, mais dans le jardin. Voilà. Et puis une autre de mes grandes spécialités, c'est le tour de magie raté. Vous savez, la nappe.
Oui.
Donc, quand on arrive...
Vous tirez la nappe et tout reste sur la table.
Non, c'est les magiciens. Et moi, je suis pas magicien du tout. Donc, quand vous faites ça à des gens qui sont en train de dîner peinard à 5 ou 6, ne bougez pas, je suis un grand magicien. Voilà, ça fait beaucoup rire mes copains, un petit peu moins les responsables des services hôteliers.
Tellement drôle.
Ouais. Je vous conseille, vous pouvez la faire, celle-là.
Ah, tellement drôle.
Et la grande blague aussi que j'aimais beaucoup faire à Pascal Obispo dans les hôtels, c'est quand vous partez de l'hôtel, vous remplissez le
livre d'or.
Le petit déjeuner. Le petit déjeuner, vous cochez absolument toutes les cases. Ouais. Vous pouvez même en prendre deux et vous le mettez évidemment pas sur votre porte, mais sur la porte de Pascal Obispo. Et comme ça, lui, à 5h du matin, parce que vous mettez un réveil assez tôt, il se retrouve avec un petit déjeuner pour 78 personnes qu'il est obligé de payer puisque moi je suis parti.
Mais ça, c'était une vieille blague que tu faisais déjà sur Is No Good à Dubosc et tout.
Je la fais tout le temps, c'est ma
blague.
Personne n'a jamais osé me la faire encore.
Alors, il y a quelques hôtels aussi où les chaussures restent devant la porte.
Oui.
Voilà.
Ça, on peut pas en parler, on est sur France Inter.
Ah non, moi je veux savoir maintenant.
Il y a un lien avec ce que tu faisais dans les couloirs tout à l'heure?
Pas du tout. Mais quand les chaussures. Il y a certains pays où on se déchausse quand on rentre dans la chambre de quelqu'un. Et donc parfois, je passais devant la chambre de. Si c'est bien ça, de ça dont tu veux parler, devant la chambre d'un ami dont on terra l'identité. Et il y avait 2-3 petites paires de babouches devant sa chambre. Voilà. Mais on n'en dira pas plus.
Mais non.
Non, non.
Alors,
personne n'a rien compris. Non, on a fait.
Ils étaient plusieurs dans cette chambre.
Ils étaient plusieurs, et voilà. Et ça n'était certainement pas pour jouer au rami.
En fait, on a mis tout l'humour et tout le côté un peu érotique au début d'émission, parce qu'après, on va parler du thème.
Eh ben, allons-y. Le jour où j'ai brûlé mon cœur, cette formule, cette phrase est employée par Jonathan Destin. Ce garçon, donc, à 16 ans, il décide de mettre fin à ses jours. Il va acheter de l'alcool à brûler, il va acheter un briquet. Et il s'immole donc par le feu. Alors, ça se passe en plus sur des quais. C'est-à-dire qu'on se rend compte ensuite qu'il aura cherché exactement l'endroit où il allait faire sur son ordinateur. On retrouve finalement s'il va sur le pont des Suicidés, qui est un pont abandonné. Oh, on va mettre sur silencieux. Vous savez, madame, c'est pas tout de raccrocher, il faut le mettre sur silencieux. Je vous en prie. Au moins, vous avez
duré. C'était pas les invités, on précise pour les auditeurs.
C'était qui? Non, parce que peut-être qu'il écoute France Inter, on peut peut-être lui dire que vous n'êtes pas disponible pour l'instant.
Peut-être qu'il y a une urgence.
C'est pas grave, madame.
Très bien. Vous êtes toutes pardonnées, de toute façon, ça arrive.
Déjà, vous venez à cette émission, c'est très sympa.
Oui, déjà, vous avez du goût. Avoir du savoir-vivre, c'est autre. Mais bon, vous avez du goût.
En fait, cette histoire est vraie, évidemment, elle retrace ce qui peut se passer dans une école, mais surtout, on entend et on comprend peut-être un peu mieux l'absence de vision de la part des parents, ouais. Camille.
C'est exactement ça que justement qui était l'une des raisons qui a fait que j'étais très très heureuse de faire ce rôle. C'est que je trouve que ça ne juge pas les parents, mais ça pose quand même le problème de l'absence de communication. C'est-à-dire que je trouve qu'à la fin du visionnage du film, on ne se dit pas du tout ces gens sont coupables ou responsables, etc. Mais par contre, c'est un appel à la parole, un appel au dialogue.
À un âge où les adolescents sont parfois secrets. Aussi.
À un âge où les adolescents carrément sont même hostiles au dialogue. Ouais. C'est-à-dire que c'est ça qui est très beau dans cette histoire et que racontent aujourd'hui Jonathan et sa maman. Ah, moi, j'ai beaucoup parlé avec la maman, d'ailleurs, que je n'avais pas rencontrée avant de tourner, parce que le réalisateur, à juste titre, me disait « Tu vas vouloir être dans l'imitation. Une fois qu'on a rencontré quelqu'un dont on interprète le rôle, on a très envie d'imiter et nous, on ne veut pas imiter, on veut transmettre... » au plus fort la
fiction.
Peut-être
déjà chercher à comprendre ce
qui
se passait.
Dans l'universel, voilà. Et donc, j'avais pas rencontré cette maman. Et j'ai rencontré la maman de Jonathan Destin là, à la projection. Et elle m'a beaucoup dit qu'effectivement, c'était après qu'elle était rentrée dans la parole et le dialogue, c'était après toute cette histoire, en fait.
Alors, la réaction des deux parents n'est pas exactement la même. Il y a évidemment, les deux sont choqués. Le père va plutôt, lui, dans le déni.
C'est-à-dire que c'était trop dur pour lui. Et donc,
ça demande de prendre ses responsabilités, de se dire qu'est-ce que j'ai raté. Et je pense qu'il n'avait pas envie de se demander ce qu'il avait raté, quoi.
En tout cas, il n'y arrivait pas.
En tout cas, ça c'est dans le film.
Dans la réalité, c'est un peu différent. Dans le film, effectivement, c'est ce que le réalisateur a voulu mettre en exergue. C'est cette incapacité de se dire, effectivement, comme dit Michael, qu'est-ce qu'il faut que je change dans mon comportement, moi ? Et effectivement, ce qui est très beau dans le film, je trouve, c'est que, d'ailleurs, il y a cette scène, sans rien spoiler, il y a cette scène où on voit les gens, vers la fin du film, chacun faire un point, c'est silencieux, et on voit de loin tout le monde se mettre à parler. Les ados se mettent à parler entre eux, les ados se mettent à parler avec leurs parents. C'est un truc qui est très réussi, un moment qui est très réussi, je trouve, dans le film. C'est la libération de la parole, quoi. Et il n'y a que ça. Il n'y a que ça, c'est la seule arme, en fait. Sur ce truc de harcèlement scolaire, la seule arme, c'est que les gens se mettent à raconter ce qui leur arrive.
Et en voyant ce film, moi, je me dis, mais quelle chance j'ai eu d'être au collège-lycée à une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Parce qu'on voit vraiment que tout part de là et que c'est tellement difficile. Et on a pu le vivre à nos niveaux, à nous, sans réseaux sociaux, être un petit peu la bête noire, ne serait-ce que pendant 2-3 jours. Ça rend quand même le chemin de l'école un peu compliqué. Là, de voir
la vanne n'a pas le même poids quand elle est faite verbalement et quand elle est faite...
Là, elle est diffusée à l'ensemble de l'établissement. Tout le monde est au courant et on peut devenir rapidement l'individu sur lequel on s'acharne.
Déjà, on se rend compte, même nous, adultes, à quel point les réseaux sociaux peuvent très vite faire du mal, très vite... les haters, les insultes peuvent vous emmener très loin dans le marasme. Alors imaginez justement ces enfants, ces élèves qui sont dans une période entre le moment où ils sortent de l'école et le moment où ils rentrent chez leurs parents, c'est un moment où il n'y a pas de règle à parler leur quoi. Et ils sont livrés à eux-mêmes et ça peut aller très très loin. La France est pas particulièrement réputé pour son nombre de suicidés. En revanche, on a un taux de suicide chez les adolescents qui est assez fort. Et le suicide est la deuxième deuxième cause de mortalité chez les 15-25.
Tous les suicides ne sont pas dus au harcèlement. Le harcèlement est...
Non, mais c'est beaucoup plus fréquent.
C'est dû à la déprime, quoi.
Moi, je ne connaissais pas, comme Mickaël, je ne connaissais pas le harcèlement scolaire comme phénomène de société. Je connaissais comme vous tous la cruauté adolescence. Non, mais c'est vrai, en plus. Moi, j'avais jamais entendu parler de ce truc. Enfin, de ce phénomène, quoi. Je savais pas que c'était un phénomène.
Parce que nous, on était plutôt harceleurs.
on était des salauds.
Le film finit sur des chiffres, d'ailleurs. Hein. Je les ai plus en tête, mais le film finit sur le nombre, justement, d'enfants.
Oui, et moi, je me suis retrouvée à un festival de cinéma à Cabourg en mai, responsable d'un jury d'adolescents. C'était 8 adolescents qui venaient de partout, dans le Calvados, en Normandie, etc. Et qui se connaissaient pas entre eux. Et ils m'ont demandé, qu'est-ce que vous faites après et tout ça. Et je leur ai dit que j'allais tourner ce film. Et je leur ai dit, moi je connaissais pas du tout. Ils m'ont vraiment regardé, genre, mais enfin, ils connaissaient tous quelqu'un qui avait été victime de harcèlement ou qui avait fait une tentative de suicide à cause de ça. Et je me suis dit, mais c'est dingue. Et effectivement, la raison principale était que nous, on connaissait la cruauté adolescente de base, les gens populaires et les gens pas cool, dans le lycée, et on était tous harceleurs et harcelés vaguement, mais dans une échelle minime. Mais après, tu rentres chez toi, t'as une famille cool ou pas cool. Ça, c'est le hasard, aussi, mais par contre, tu n'as pas ce truc où quand tu rentres chez toi, ça continue.
Oui, ça ne s'arrête jamais.
700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire par an. Ça représente quand même 6% du total des élèves. Et 55% des élèves en situation de harcèlement sont touchés par la cyberviolence. Donc ça vient d'Internet, de Facebook. Ça va aller, Camille? Parce que
ça va, cette petite toux?
J'ai cru que Morin était arrivé. J'ai cherché.
Et puis ça intervient à Anna. Aussi, où on le voit avec le personnage de Jonathan Destin, c'est ça, qui est un jeune homme qui a 16 ans, on est dans la recherche de l'amour, il est un peu fort, il y a l'acné, il y a tout ça qui fait qu'on est déjà
Il se fait traiter de baleine à l'école, les filles se moquent de lui.
Il y a des scènes d'humiliation dans le cours de sport.
Il y a des poissons d'avril qui sont extrêmement violents, enfin donc il est vraiment la tête de Turc. Il faut préciser aussi, parce que c'est l'un des éléments clés de votre personnage, et du film. Vous êtes CPE dans le film, Mickaël Youn, et votre fils est à l'école aussi.
Voilà, mais ça va être difficile d'en parler sans spoiler.
Non, c'est-à-dire que le problème, c'est que il doit s'occuper de toute l'école et en même temps être père aussi et s'occuper de son propre fils. Et il peut y avoir aussi à ce moment-là.
Mais justement, d'ailleurs, sans rien spoiler, ce qui est incroyable, c'est qu'il a son fils dans l'école.
Oui, puis je pense qu'il se démerde plutôt pas mal. Il a une discipline assez assez cool. Il est plutôt dans la pédagogie. Je me suis pas mal inspiré de mon père. En fait, était psychothérapeute de groupe, d'entreprise, de couple, etc. Et je trouve qu'il avait une approche de la communication dans le langage. Souvent, je me foutais un petit peu de sa gueule. C'est-à-dire, même quand il y avait des drames, il disait oui, mais explique-moi. Alors bon, tu as voulu la poignarder, mais explique-moi qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et
c'est drôle de vous imaginer avec un père comme ça en même temps.
Et je me suis un peu inspiré de mon père dans la communication qu'il avait avec les étudiants, en essayant d'être cool mais avec des frontières. Et j'ai l'impression que avec son fils il est dur tout en étant juste.
Il est dans l'écoute, même si au sein, parce que c'est ça aussi, c'est ce que je trouve intéressant dans le film, c'est que il y a évidemment le harcèlement qui est au cœur de l'histoire, mais finalement le CPE, quand il rentre chez lui, ça redevient un papa, ça redevient un mari avec ses histoires perso, et que le cloisonnement, et là on peut mettre tous les profs dans cette situation là c'est-à-dire que il y a le costume que l'on a quand on est prof, mais on rentre à la maison, on a des problèmes de la vie de tous les jours avec...
Comme un animateur radio qui sortirait de la radio et qui a des problèmes de plomberie à Montmartre.
Évidemment, ça peut arriver aussi. Le numéro vert quand même pour aider... Exactement, c'est le 30-20 pour aider les élèves, les parents, les professionnels, en fait ceux qui peuvent être témoins aussi du harcèlement, parce que c'est pas souvent, ça peut être plus souvent les gens qui observent, qui se disent il y a quelque chose qui va pas bien, qui est pas normal, qui peuvent simplement alerter peut-être certaines personnes et pour que la, l'écoute et la communication naissent, le 30-20. Tom Villa, ça va être un succès, ce
évidemment que ça va être un succès. Le lundi sur TF1, c'est succès, 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 mais dans des séries très diverses. Par exemple, on alterne, c'est un coup de Camping Paradis et puis un coup de Jacqueline Sauvage. Voilà, c'est deux salles, deux ambiances. On a volé les merguez pour le couscous géant d'un côté, puis de l'autre, j'ai buté mon mari qui me tapait. Mais c'est vrai que depuis quelques années, TF1 a su renouveler ses lundis. Et là, ce soir, voilà, c'est le jour où j'ai brûlé mon cœur. C'est l'histoire vraie d'un jeune homme harcelé à l'école qui décide d'en finir en s'immolant par le feu. Voilà, bonne émission à tous.
Donc, non, attendez, vous pouvez pas vous arrêter comme ça, Thomas.
Si. Non, vous avez vu le sujet. Non, mais moi, je suis un tout-terrain de la chronique. J'ai fait des papiers sur tout. Le foot, la drogue, les putes. Parfois dans le même papier, hein. Alzheimer, les handicapés, la SNCF. Parfois dans le même papier aussi. Bref, il n'y a pas un sujet que j'ai pas fait. Mais là, le harcèlement scolaire, Nagui, tiré d'une histoire vraie, d'un gamin qui s'est en plus immolé par le feu. Bon, vas-y, Jeannot, fais-nous marrer, quoi. Non, mais je dis pas que c'est pas bien d'en parler. Au contraire, c'est super, mais d'en rire. Vous voulez pas que je vous fasse une chronique sur le 13 novembre, plutôt? J'ai de très bonnes vannes sur le Bataclan. Non, mais c'est terrible. Le harcèlement scolaire, bon, voilà, c'est un sujet qui parle à tout le monde. J'ai cette petite impression que le harcèlement scolaire, c'est devenu de plus en plus violent. Leïla en parlait tout à l'heure. C'est vrai que depuis quelques années, les collèges, c'est devenu un épisode de fait entrer l'accusé. Moi, quand j'étais au collège, si je voulais harceler un mec de ma classe par téléphone, par exemple, fallait que j'attende que ma mère ait fini sa conversation avec ma grand-mère, que je tape le numéro sur le téléphone fixe, que je demande au père de mon pote s'il était d'accord pour que je lui parle, et seulement après tout ça, je pouvais le traiter de fils de pute. Fallait quand même très très motivé pour être un connard à l'époque, tu vois. Aujourd'hui, un SMS, une story Snapchat, et puis c'est parti pour la foire au ragot. Il y a aussi le problème des filles qui envoient des photos nues, vous savez, et puis après les photos tournent dans tout le collège, sur tous les portables et tous les réseaux sociaux. Il y a 15 ans, pour faire ça, fallait faire une photo de Sophie à poil avec un appareil jetable. Fallait aller chez Photoservice la faire développer. Fallait faire une centaine de photocopies. D'ailleurs, au bout de 50 photocopies à cause du noir et blanc qui dégueulait, Sophie s'était devenue Geneviève de Fontenay. Ensuite, fallait les coller dans le hall du collège sans se faire choper par le pion. Bref, avant, pour harceler, c'était pire qu'organiser une manif de la CGT. Alors que maintenant, en deux clics, bah, voilà, tout le monde l'a, tout le monde l'a vu, on fait des parodies, il y a un débat dans Balance ton poste, c'est devenu n'importe quoi. Voilà, tout va trop vite, il n'y a plus de règles. Avant, on se faisait emmerder, on pouvait en parler aux adultes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes trouvent plus forcément les personnes en face. Le CPE, à la base, il voulait aider à l'éducation des enfants. Il se retrouve à devenir dresseur. La prof d'anglais, elle est dans son délire. Faut que quand tu lui expliques ses malheurs, elle fait « In English, please !» Alors, bah, va te faire enculer. L'infirmière, tu te faisais harceler. Bah, une fois sur deux, elle te donnait un sucre et l'autre fois sur deux, elle n'était pas là parce que c'était un mi-temps. Donc voilà. En tout cas, c'est quand même compliqué. En tout cas, je trouve ça très bien d'avoir fait une série sur le sujet. D'ailleurs, je pense que cas exceptionnel, si on harcèle les auditeurs pour qu'ils la regardent, là, ça dérangera personne.
Allez, merci, Tom Villa. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Ce soir, donc, 21h sur TF1, Camille Chamou, Michael Youn, mais il y a également Clément Manuel, Sarah Stern. Je voulais souligner aussi Camille Aguilar, Manon Brecht, Martin Daquin, tous ces adolescents qui jouent et qui sont super formés. Justes. Ouais. Baptiste qui sont, Florial.
Qui sont plus adolescents depuis longtemps, mais au cinéma, on s'en rend pas compte. Luna. Ils ont tous 27, 28 ans.
Ils viennent en voiture.
Bon, bah, écoute, moi, j'ai cru que c'était vraiment des scolaires. Luna Lou, et puis il y a Marie-Julie Bob aussi, qui est présente. On va pas, le casting est long.
Il y a
long.
Le docteur Kemal aussi, ça m'a fait rire. Ouais. Voilà. Le docteur s'appelle Kemal. C'est le seul moment où j'ai rigolé, donc je me suis dit, il faut que je
pourquoi
dise.
Pourquoi ça vous a fait rire,
le docteur Kemal. Bonjour, je m'appelle le docteur Kemal.
Kemal.
Est-ce que tout est vrai dans cette série ou pas? Parce que vous avez précisé, vous avez dit, le papa est dans le déni, en tout cas dans la fiction, ça sous-entend que c'est pas le cas dans la vérité.
C'est un peu au romancé. Malheureusement, dans la réalité, comme le souligne Jonathan, personne ne s'est excusé.
Ouais.
Et ça, c'est incroyable.
Personne ne s'est excusé. En revanche, là où il y a quand même de l'espoir dans la réalité, parce que c'est vrai que c'est très sordide, effectivement, mais dans la réalité, c'est vrai que la mère s'est inscrite, à créer une association, s'est inscrite dans des associations et a créé la sienne, et diffuse encore aujourd'hui la parole très très largement, c'est-à-dire fait le tour des collèges de France. Vraiment, elle va partout.
Ça fait 5 ans.
Ouais. Et ouais, depuis 5 ans, et elle raconte son histoire et elle fait parler les gens.
Il a été brûlé à 72%. Oui. Il a été vraiment entre la vie et la mort.
5 ou 6 mois de coma.
Cette voix off nous accompagne tout le long du film, parce que c'est aussi intéressant qu'il y ait cette espèce de regard comme s'il hante finalement la vie des uns et des autres, aussi bien des gentils que des méchants, dans le film, si on peut être manichéen, mais il est présent tout le long. On sait, on connaît l'histoire vraie, donc on sait qu'il s'en sort, on sait que c'est lui qui a écrit le livre. Donc dans le livre, il n'y a absolument pas, enfin tout est vrai dans le livre, ou est-ce que dans le livre
le livre est vrai.
Non, dans le livre tout est vrai.
Tout est vrai. Donc pas de pardon dans le livre.
Pas de pardon.
Et pourquoi rajouter un pardon dans le film? Pardon.
Lui, il a
pardon, poser la question. Pardon.
Il a porté plainte contre ses harceleurs. D'accord. Même si c'est très compliqué, parce qu'il faut trouver les personnes qui l'ont racketté, c'est sa parole contre la leur. Voilà, Donc le procès est beaucoup plus compliqué dans la réalité que ça ne l'est dans la fiction. Je pense que c'est parce que ce que voulait dire Yvan et ce que l'auteur et le producteur, c'est ce que soulignait Camille tout à l'heure, c'est que ce qui est important dans toute cette histoire, c'est d'arriver à communiquer. Les harceleurs sont pas forcément des mauvaises personnes. Ouais. C'est juste que voilà, à un instant T, des jeunes
qui sont maladroits.
Oui, qui sont pas complètement finis.
Et parfois eux-mêmes harcelés, comme on le voit par un des trajets de l'adolescente. C'est-à-dire que on est souvent harceleur de quelqu'un, harcelé de quelqu'un.
Et on peut pas imaginer que ça va conduire à 17 opérations, 3 mois de coma.
Alors
et
après,
voilà. Sans justifier, voilà.
Moi, ça a été. J'ai pas pu m'empêcher, d'ailleurs, ça t'avait fait rire, Camille.
Oh là là.
Quand j'ai vu Jonathan, j'ai pas pu m'empêcher de. J'ai pas pu lui parler avec.
Non, mais vous imaginez qu'on voit Jonathan. On voit Jonathan pour la première fois sur le tournage. Il arrive et tout le monde prend une tête un peu compassée. Jonathan est un garçon extrêmement sociable, très à l'aise.
Qui a donc quoi, une vingtaine d'années maintenant ?
Qui a 23 ans, ouais. Et qui a une conversation hyper agréable. D'ailleurs, on a vraiment beaucoup parlé avec lui. Après, on a déjeuné avec lui et tout ça. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de recul. Mais avant ça,
il
vous avez quand même.
Alors, Mickaël Youn a fait quoi comme
Mais c'est pas possible, non, c'est-à-dire que le type arrive et donc au début on est tous comme ça.
On fait un barbecue, il a fait que. C'est quoi le genre de vanne que fait.
C'est-à-dire qu'il dit, il arrive et.
Je n'ai pas fait une vanne, mais le père que je suis n'a pas pu s'empêcher de lui dire, mais qu'est-ce que t'as fait? T'es couillon ou quoi? Tu pouvais pas parler plutôt que te brûler.
Ouais, il lui a fait.
Tu lui fais la morale, quoi, la leçon.
Je lui ai dit bonjour, après je lui ai dit, mais t'es con ou quoi?
Il a fait, ah bah bravo. Non, mais il a vraiment fait, ah bah bravo. Bravo, bah t'es pas couillon toi, non mais regarde-toi, non mais alors vraiment je dis bravo.
Et il répond quoi?
Et il a dit oui, c'est vrai.
Oui, il dit ouais, je sais, je suis pas fut-fut. Il a dit je suis pas fut-fut d'avoir fait ça.
Parce que c'est...
Mais il a rigolé et ça lui a fait du bien que quelqu'un aborde tout de suite le truc en fait.
Je ne sais pas si c'est la réalité ou pas, mais il est harcelé aussi bien à l'école qu'à la maison.
En fait, il n'est pas harcelé.
Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le regard de l'amour dans son père, on voit
Non, c'est-à-dire c'est pas qu'il est harcelé à la maison, c'est qu'à la maison, on ne parle pas, c'est-à-dire que les gens...
Dans le film, que ce soit sa sœur, son père ou sa mère, on n'est pas dans un foyer où...
Oui, mais ça, c'est pas du harcèlement.
Où l'amour résonne. J'exagère en disant il est harcelé à l'école et à la maison.
Non, c'est que le film, parce que vous voyez...
Il n'est pas écouté, il n'est pas entendu.
C'est complètement différent, Nagui.
Je suis d'accord. Mais je veux dire...
Les gens qui sont présents ne sont pas forcément écoutés chez eux.
Ils n'ont pas...
Même des gens qui sont derrière un micro. Et c'est pas du harcèlement, ça fait mal.
Non, ce qu'il y a, c'est que...
Je pense que s'il y avait un poil plus d'amour à la maison, peut-être qu'il aurait
communiqué. D'expression de l'amour.
Ouais,
parce que
ça, manifestation de
l'amour. En fait, ça se voit dans le combat de sa mère et dans finalement l'état de sa sœur et tout ça. Je trouve qu'on voit quand même qu'il y a énormément d'amour, mais qu'il ne sait pas trouver les voies de l'expression ou de la parole. Et effectivement, et en plus de ça, se rajoute un truc, et qu'une fois que quelqu'un a fait un acte dramatique comme ça, on a toujours tendance à se dire est-ce que ça vient pas de lui? Est-ce que c'est pas lui qui avait un problème avant?
C'est comme ça que malheureusement l'école a véritablement réagi.
Et c'est comme ça aussi que l'école réagit.
Elle a dit pas de vague, nous on n'est pas responsables, c'est pas de notre faute si Jonathan a été harcelé.
Donc le CPE n'existe pas? Votre personnage est une pure fiction aussi?
Exactement.
C'est un appel.
Tout le bon côté des choses.
Oui, allez. Il y a pas de pub sur France Inter.
Le bon côté, parce que
qu'est-ce qu'il y a de bon et de vrai?
Ah bah alors Jonathan et sa mère disent en vrai, et d'ailleurs on les salue parce que je pense qu'ils écoutent l'émission. Jonathan et sa mère disent que ce qui a changé, Jonathan dit un truc très beau d'ailleurs. Hein, il dit je ne regrette pas ce qui s'est passé parce que j'ai connu une face de l'humanité que je ne soupçonnais pas. Il nous a dit ça au déjeuner. Après, je n'avais connu que des choses sombres dans mon rapport aux autres. Je retenais que des choses très sombres et j'ai connu depuis une empathie et un partage de sentiments, un soutien que je n'avais jamais connu et soupçonné dans ma vie.
Qu'est-ce que t'es forte, t'as répondu tellement pas à la question de Nagui, mais ta réponse était tellement meilleure que sa question.
Parce que ma réponse rejoint sa question qui est qu'en fait, ce qui est positif quand même dans la vraie histoire... C'est que comme ils se sont démenés, le fils et la mère, pour transmettre cette parole partout et qu'ils ont eu énormément de réactions de chaleur et de soutien, et ben effectivement, ils se sont rendus compte que la communication permettait d'avoir énormément de solidarité, ce qu'ils ne soupçonnaient ni l'un ni l'autre avant. J'ai pas mal répondu, ça va. En revanche, et d'autre part, je pense que
est-ce que la manière dont la sœur s'occupe, entre guillemets, de l'affaire est la réalité ou fiction aussi?
Fiction.
Il y a un tout petit point de réalité.
D'accord, un point de départ. D'accord. C'est ce soir, 21h sur...
On a fait des émissions, on n'était pas bien accueillis, mais alors on est comme ça.
Ouais,
le jour où j'ai brûlé mon cœur, c'est ce soir à
21h. Enfin,
mais vous êtes d'accord, mais Nagui, vous êtes d'accord que le rôle de la fiction, c'est aussi d'appeler un truc d'espoir, quelque chose de l'espoir et un changement.
Il est déçu. Il est déçu. Il pensait que tout était vrai, il était content. Il avait regardé ça avec Momo à la maison, il était content.
C'est triste pour le petit Jonathan.
J'aurais aimé que la réalité soit la fiction. Pour lui, voilà, c'est vous qui avez spoilé en disant dans l'arrêté, il n'y a pas de pardon.
Je me permets de dire que Jonathan Destin a encore besoin d'énormément de soutien, notamment financier, pour les greffes, ça coûte extrêmement cher et sa mère a une association pour Jonathan. Et donc, c'est très facile à trouver, association Jonathan Destin. Vous tapez sur internet et vous pouvez encore,
D-E-S-T-I-N,
et vous pouvez encore l'aider aujourd'hui, aider sa maman, aider Jonathan.
On va mettre tout ça sur la page aussi de l'émission sur le site.
Devenir pâtissier.
D'Inter.
Ouais. Comme il transpire beaucoup, c'est compliqué. Si vous avez une idée, n'hésitez pas.
Ouais.
Voici Jérémy Crédil.
Hey.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Voilà. Bon, non, j'ai décidé de mettre un peu d'entrain dans ma chronique parce qu'en général, je me trouve mou. Ouais. Non, c'est vrai, je me suis regardé sur les internets et disons que j'ai moins de pêche qu'un opossum malade. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une chronique sans feuilles. Voilà, ce sera une chronique.
Ah oui, rien.
Ouais, c'est une chronique migrante, sans papier. Parce que je crois que le problème vient de la feuille. À chaque fois que j'ai une feuille devant moi, je bafouille. J'ai l'impression que ma chronique, c'est une jolie fille. J'arrête. Non mais vraiment, comme avec une jolie fille, je ne peux pas m'empêcher d'avoir le nez dedans. Donc j'arrête ça.
La classe.
Ma contribution écologique dans cette émission. Voilà, tout le monde s'y est mis. Guillermo a arrêté la viande. Daniel Morin a arrêté les douches. Il a même arrêté de venir dans cette émission.
Non mais écoute, juste, il faut le dire. 5 minutes avant l'émission, il s'est senti mal. Donc voilà.
Très bien. On l'embrasse. Il nous écoute.
Parce que c'était une vanne. Non, il est venu nous faire une entrée fracassante.
Non, il est parti chez le docteur.
On ne le reverra plus.
Donc il nous écoute, on ne sait pas.
Ça se trouve, c'était peut-être la dernière. Il nous écoute même pas.
Peut-être qu'il est parti s'immoler, on ne sait pas.
Laissez-le terminer sa chronique, je suis empathique, moi.
J'adore. Tanguy, lui, il a arrêté les bouteilles en plastique, il s'est mis aux gourdes, et c'est vrai que ça manquait de gourdes dans cette émission. Pas vrai, Layla, parce que Layla, comme on le sait.
On l'a fait 15 fois, celle-là.
Non, mais Layla, voilà, t'es pas une gourde. Non, mais on le sait, c'est vrai, on ne peut pas te remplir d'eau.
Non, c'est vrai.
Donc voilà, moi, ma contribution écologique. Non, mais on a arrêté les gourdes parce que les bouteilles en plastique, ça tuait les dauphins. Voilà, moi j'étais pas au courant que ça tuait les dauphins, les bouteilles en plastique, c'est-à-dire que les dauphins sont quand même complètement cons. Je veux dire, boire de l'eau d'une bouteille en plastique quand t'as plein d'eau autour de toi, c'est que tu l'as cherché. Alors moi je vois bien les dauphins qui vont téléphoner à France Inter en disant « Ouais mais tu comprends, l'eau de mer elle est salée, t'y as déjà goûté une eau au goût d'huître, hein, et arrêtez de me monter dessus dans les aquaparks, je suis pas un cheval bordel. »
Parce que le dauphin a un accent comme ça.
Oui, on salue tous les dauphins marseillais.
Donc Marseillais à Cancun.
Ma contribution écologique c'est de faire ça sans papier, je sauve peut-être un arbre, on ne sait pas. Oui. Voilà. Non, mais quand j'ai su qu'à cause de mes chroniques, j'avais peut-être tué des arbres, j'étais très mal à l'aise. J'ai éprouvé du dégoût, comme la première fois que j'ai vu Nagui. C'était très, très violent. Non, mais les arbres, sous prétexte qu'ils disent rien, qu'ils bougent pas, on se permet de faire n'importe quoi avec. On fait des cabanes dedans, on les tronçonne, on fait même du papier avec lequel on se torche, c'est vous dire. C'est quand même dingue.
C'est dégueulasse.
Non, mais c'est vrai. On grave notre amour sur un arbre avec un couteau. Qui graverait sur un chien machin plus truc égal cœur ? Personne, puisqu'un chien, ça bouge. Et les arbres, c'est quand même le poumon de la planète. C'est-à-dire qu'il y a des gens en forêt qui pissent sur le poumon de la planète. C'est complètement fou. Alors, je pourrais écrire sur du papier recyclé, mais ça m'ennuie d'écrire sur un arbre mort. Parce que le recyclage, c'est donner plusieurs vies à l'objet, mais ça lui donne plusieurs morts aussi. Et puis, c'est pas parce qu'on a plusieurs vies que c'est cool. Vous voyez, les chats, ils ont 9 vies, c'est quand même des sacrés enculés. Donc, voilà. Donc, quand même. Voilà, donc le recyclage, moi, pour faire cette chronique écologique, j'ai dû recycler mes idées, j'ai dû faire du tri, c'est-à-dire que les idées de merde, j'en ai fait du compost. Après, je savais pas vraiment où mettre mes idées, dans quelle poubelle jaune, poubelle verte, on sait pas. Il devrait y avoir des logos sur les idées, comme ça on saurait où les mettre plutôt que de les jeter comme ça dans la nature. Une nature qui a pour l'instant des dauphins, qui a aussi des arbres, deux espèces qui ne se rencontreront jamais puisque les dauphins ne grimpent pas aux arbres, par manque de pousses, et les arbres ne savent pas nager. Donc voilà, c'était ma contribution pour la planète et aussi pour moi, puisque quand Tanguy a arrêté les bouteilles en plastique, il a reçu une gourde, donc peut-être que moi, en arrêtant le papier, je vais recevoir une tablette.
Oh, joli.
La bande originale.
Et il l'a vraiment fait, il faut le dire. Hein.
Ah, ouais. Il est très fort.
Il est pas radiophonique.
C'est très
sans
bien.
Papier, ouais. Sans papier. Et mais c'est bien, en plus, on a ton regard.
Ouais. Oui.
C'est mieux, il faut faire ça tout le temps. Hein.
Bah, je
très agréable. La bande originale de Camille Chamou et Michael Youn commence en 96, où vous écoutiez Camille.
Je vous téléphone encore. Ah oui. Matin, car aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et je me remémore. Notre nuit très bien.
Pourquoi Mieux Sec?
Ah, j'adorais Mieux Sec. Enfin, j'adorais.
Il ouais, y a un nouvel album qui vient de sortir.
Nouvel album qui vient de sortir, ouais, que j'ai pas encore écouté. Mais non, j'avais une petite folie en 95, 96, 97 sur tous les chanteurs qui prenaient l'alcool, dont les albums s'appelaient À boire oui, ou Boire. Oui, j'écoutais aussi Dominica, le 22 Bar. Enfin, vraiment tout ce qui était boire et chansons. Non, j'adore la chanson française en vrai. Et Mieux Sec, je trouve qu'il y a un petit truc addictif.
Mais parce que l'alcool était votre ami quand vous étiez en cagne, hypocagne et compagnie?
Eh bien oui, tout à fait. C'est là qu'on apprend à boire. Il faut tenir les études, voilà, c'est ça.
Dans ces mêmes années, c'était en boîte de nuit apparemment que Michael allait.
Ah, Michael.
Ben, c'est pour les mêmes raisons.
Il faut tenir. Hein.
Ça, c'était quelle année?
96.
Ah oui, 96. Ouais. C'est l'année où il sort.
Gala.
Oh là là.
Qui était reprise.
Qu'est-ce que j'ai roulé comme pelle à des travestis.
Et vous avez votre diplôme en poche, un diplôme d'école de
tout
commerce.
Ouais.
Et parce que vous êtes à peu près dans les mêmes époques d'études, on va dire.
Et supérieurs tous les deux.
Ouais, supérieurs tous les deux. Et vous découvrez la radio. Et tout d'un coup, les écoles de commerce et le commerce. Et...
Ah bah ouais.
On oublie quoi.
Bah, en fait, moi j'ai fait une école de commerce et ça m'a surtout servi à savoir ce que je voulais pas faire.
D'accord.
Mais il m'a fallu quand même 5 années d'études supérieures pour me rendre compte que j'étais pas très rapide à l'époque.
Et vos parents, ils devaient être un peu déçus, non?
Oh, déçus? Non, déprimés, ouais.
Non, ça coûte cher.
Surtout quand vous dites à vos parents,
ça coûte cher.
Qui vous imaginaient, je sais pas, cadre dans une grande boîte, en plus j'avais commencé à travailler, vous leur dites que vous arrêtez après 5 années d'études pour devenir animateur radio ou saltimbanque. Il me dit non mais qu'est-ce que tu veux faire en vrai dans la vie? Je veux dire alors salut les petits clous, alors qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Non, ça ils comprennent pas quoi, ils bug. Donc voilà, ça m'avait valu des soirées un peu
c'est
chaudes.
La phase 1, la phase 2 ils sont fiers généralement.
Oui, c'est ça.
Mais il y a une phase 1 qui est un peu difficile alors, à passer.
Moi j'ai
il y a eu du temps entre
moi
les deux.
J'ai eu une phase, ça c'était la phase 3, ils sont fiers et après ils ont eu la phase 2. En disant, oui, t'as réussi dans le domaine dont tu m'avais parlé, mais on a encore plus honte qu'avant. Je piquais, moi, dès que je faisais des personnages féminins, j'allais taper dans la penderie de ma mère, des tailleurs. Et donc, je faisais des personnages au morning, ouais, en particulier ça. Nadine de Hot Chili Pepper, etc., qui faisait n'importe quoi. Et après, ma mère les mettait, ces tailleurs. Elle savait pas, elle regardait pas l'émission le matin. Et elle rencontrait des gens dans la rue qui disaient, vous seriez pas habillé comme Nadine de Hot Chili Pepper?
Génial.
En 2006, Camille, vous dansiez.
J'adorais.
Une choré?
Oh là là, il y a une choré géniale sur Hang Up de Madonna. Un peu inspiré de la fin de son clip. C'est du step en fait. C'est du step sur le côté, les gens sont hyper impressionnés et tu peux lancer des chorés collectives dans des fêtes ou en boîte sur Hang Up. Je suis très très forte pour ça, moi, ouais.
Et c'est votre premier one-man show, Camille Attaque.
Ouais.
Et la réaction des parents, si on est toujours aussi dans cette sphère-là?
Alors, heureusement pour moi, à la première, dans un tout petit café-théâtre de mon premier one-man show, Pierre Palmade est venu. Et donc ma mère, ça y est, c'était bon. Il y avait Pierre Palmade dans la salle, elle est vraiment allée le voir en disant... Et alors quand même, véridique, hein, ma mère va le voir en disant « Pierre Palmade, mais c'est incroyable! Mais qu'est-ce que vous devenez? Vous faites plus rien !»
Non.
C'était génétique,
affreux
alors.
Mais il a beaucoup ri, il a été hyper sympa parce qu'il connaît les mères particulières, je dirais. Et donc, voilà, il a énormément ri, il a été très sympa avec elle.
Mais parce que c'était pas un plaisir, a priori, pour vos parents de vous voir embrasser cette carrière. Quand vous parlez de votre parent du milieu familial, c'est un peu diamétralement opposé à la personne que vous nous donnez à voir, quoi.
Ouais, tout à fait. Mais effectivement, à partir du moment où vous êtes... Enfin, de toute façon, il y a un truc très simple. À partir du moment où vous parlez d'eux, que ce soit en bien ou en mal, ils sont contents, les parents. C'est quand même assez marrant. À partir du moment où...
Vous verrez avec vos enfants.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Et donc, comme moi, je parle beaucoup de mes parents dans mes spectacles, et pas qu'en bien.
Non, oui, j'ai compris.
Vraiment pas qu'en bien.
Clairement.
Mais je parle beaucoup de mes parents, et du coup, ils sont contents quand même.
Mais tu remarques qu'ils disent toujours que c'est pas exactement,
ouais, exactement
ça.
Alors que tu fais des trucs copier-coller sur la réalité, ils sont là.
Je te disais pas, va chier. Je ne disais pas ça exactement comme mais ça. Je disais, tu devrais aller dans ta chambre.
C'est vrai.
Comme toi, tu ne cassais pas les carreaux de la maison.
Très bien.
Dans les hôtels même.
Autre style de musique, enfin, autre ambiance, celle de Michael Youn, Damien Rice.
Ah, j'adore ça. J'adore.
Alors, je vais vous raconter pourquoi. Je tournais un film qui s'appelait Incontrôlable.
Tu ne dois pas dire du mal de Damien Rice, j'espère.
Non, pas du tout.
Vous avez pris 20
kilos. Je tournais
kilos,
un film qui s'appelait
kilos.
Incontrôlable, et malheureusement, dans une scène où je jouais au squash avec Hélène de Fougerolles, les placements n'étaient pas bons. Moi, je suis persuadé que c'était elle qui n'était pas dans sa marque. Elle dira que c'était moi. Bon. Je lui ai malencontreusement un coup de raquette dans l'arcade sourcilière. Ce qui fait que l'arcade, vous savez, ça saigne beaucoup. Donc, il faut mettre des points de suture. Et donc, on se retrouve, comme on dit en langage cinématographique, en sinistre. C'est-à-dire, on ne peut pas tourner. Donc là, la production nous dit, on se retrouve dans 10 jours, etc. etc. Et il s'avère que moi, c'était l'anniversaire de ma petite amie de l'époque. Et je ne pouvais pas aller à son anniversaire puisque j'étais en train de tourner. Je me suis dit, chouette, je vais lui faire une surprise. Mmh. Elle était en train de tourner à Vancouver, au Canada. Donc, je prends l'avion, j'achète, en arrivant à Vancouver, un très beau bouquet de fleurs. Et je suis dans le lobby de l'hôtel. Je l'attends puisque je sais qu'elle va rentrer de tournage. Et là, elle rentre de tournage avec son équipe. Elle est de dos. Je la vois se diriger vers le comptoir. Et elle embrasse sur la bouche le producteur du film en lui disant à plus tard.
Mais c'est pas vrai.
Je lui ai donné son bouquet de fleurs. Je suis reparti à Paris. Donc, c'est Vancouver. C'est à peu près 17 ou 18 heures d'avion.
Oh,
et donc j'écoutais beaucoup cette chanson à l'époque.
Son producteur était Damien Rice.
C'est fou cette histoire. Et en plus vous prenez 20 kilos pour le rôle.
Il en a repris 30 du coup après.
Voilà.
Mais en même temps,
non, mais c'est vrai.
Alors, et donc il y a un truc qui est très français.
Non mais attends, Michael, c'est que donc c'était pas la femme de ta vie.
Ah non, ça c'est sûr. Non, mais ça voilà. Fait. Il y a un truc qui est très bizarre. Pourquoi quand on est triste, on a besoin d'écouter des chansons tristes.
Ouais.
C'est
vrai. Ça nous fait du bien.
Alors qu'on devrait faire l'inverse.
On n'est pas tout seul comme
ouais,
ça.
Tu veux écouter quoi ça. La compagnie créole là.
Tu viens de faire larguer.
Elle a embrassé.
Bon, et puis moi j'embrasse pauvre Hélène de Fougerolles. Je suis en train de repenser à son arcade souci a éclaté pendant 10 jours d'arrêt, la pauvre.
Ouais. Mais au total, c'était moi qui étais plus mal qu'elle. Mais...
Oui.
Ah, parce que je suis rentré de mon périple à Vancouver.
Une autre forme de blessure.
J'étais moins bien.
Ouais. Une autre forme de blessure. Mais en tout cas, Damien Rice est un.
Comme quoi, il n'y a pas que nous qui trompons.
Ouais, Damien Rice, il est sorti avec une copine à moi.
Ah ouais.
Moi, je crois qu'il n'a pas été cool d'ailleurs.
Comédienne.
Ah, mais je ne dirai rien.
Si.
Moi, ma tante a un pull rouge.
Moi, ma tante a un pull rouge. Et c'est une émission éclectique. On parle d'immolation et de. Ouais.
En 2013-2014, Camille, vous écoutiez Black Eyed.
Ouais, tous les matins.
Et là, vous étiez triste.
Ouais, c'est ça. Elle était sympa cette chanson, elle était de bonne humeur et on l'avait mise dans les gazelles du coup.
Ouais, vous êtes à l'affiche de ce film que vous, dont vous êtes co-scénariste.
Tout à fait.
Et tout d'un coup, on donne des rôles féminins. Autre que les rôles stéréotypés, habituels, bande de filles qui s'éclatent.
Ouais, c'était vraiment un film d'un point de vue féminin. C'était pas du tout un film anti-homme, mais c'était un film complètement du point de vue de toutes les filles.
Ouais, l'histoire d'une jeune nana qui quitte son mec, qui prend sa liberté.
Qui d'un coup découvre le milieu du célibat trentenaire.
C'est ça. Et qui évolue difficilement là-dedans, avec plus ou moins de joie, plus ou moins de peine. Et c'est toute une bande de filles aussi autour de vous.
Exactement, Joséphine Demeau, Nedra Ayadi, Audrey Fleurot, sont toutes devenues des copines. Camille Cotin qui était déjà une grande copine et c'était le premier rôle au cinéma.
Et avec un bel accueil ce film.
Ouais, c'était super. C'était super parce que tu sais jamais quand on sait jamais comment ça va marcher. Et puis moi j'étais pas du tout, je faisais pas du tout de cinéma encore donc. Non, il y a eu un très bel accueil et c'était une très très chouette expérience. Et effectivement, on a été contents de réussir ce truc de rôle féminin, quasiment exclusivement des rôles féminins à l'écran.
Expérience, nouvelle expérience également pour Michael Youn, la même année.
La
route pour l'enfer, c'est l'enfer de réaliser un film.
C'est exactement ça. Après, c'est vraiment pas pour parler du sujet des critiques ciné ou quoi que ce soit, mais je pense que si ils avaient conscience à quel point on se bat chaque jour, c'est tellement difficile de réussir à mettre 80, 90, 100 personnes à l'unisson pendant 3-4 mois. C'est un miracle de faire un film réussi, en fait. Déjà, quand on y met toute son énergie, 9 fois sur 10, c'est de la merde. Donc évidemment, quand on n'y met pas toute son énergie, ça deviendra de la merde. Mais sur le tournage en particulier de Vive la France, j'écoutais beaucoup AC/DC, ça me donnait de l'énergie. Mais parce que c'est un combat. C'est vraiment un combat. À chaque fois, j'utilise un langage assez guerrier quand je réalise. Je parle de Vietnam, je dis c'est la guerre, là c'est l'heure de fighter, etc. C'est pas facile.
Revenons au sujet du film. Ce soir sur TF1, le harcèlement s'appelle Le jour où j'ai brûlé mon cœur. C'est la première partie qui est diffusée ce soir à 21h. Il y a deux parties. Il y en a une à 21h et une autre après.
Dans la foulée.
C'est coupé par la pub.
C'est en deux parties.
Non, mais il y a un générique et tout. Non, c'est pas coupé par la pub. C'est en deux parties. Vous avez pas vu?
Ah non.
C'est en deux parties.
Mais nous on l'a vu en entier.
Non mais c'est quoi l'idée? On peut appeler TF1.
C'est deux fois 52 minutes. Ouais. Je sais pas comment on appelle ça.
Il y a de la pub.
Ah ouais, d'accord.
Non, c'est pas
une fois 104 minutes.
C'est pas une coupure pub entre deux scènes quoi. C'est il y a un générique début, générique fin.
Bon, en tout cas vous pouvez regarder ce soir le début quoi qu'il arrive.
Bah non, c'est ce soir que ça passe en tout cas.
Et la fin. C'est ce soir les deux.
Catherine.
Excusez-moi Nagui.
Catherine Verdier.
Non mais quand vous mettez la première et la deuxième partie le même soir, vous pouvez pas dire que c'est en deux parties. C'est le même soir.
C'est maintenant le côté mini-série.
Bon, allez, je me casse. Non, mais c'est bon, voilà.
Catherine Verdier, merci de venir à ce micro. Vous êtes psychologue, auteur, fondatrice de Psy Famille. C'est au Luxembourg. Vice-présidente de l'association Marion la main tendue contre le harcèlement scolaire. Auteur du livre, donc, J'aime les autres, le guide des bonnes relations à l'école, que vous avez publié il y a un an.
Un an.
C'est ça?
Un an, pile.
S'il fallait donner une définition au harcèlement, parce que certains disent non, mais c'était qu'une blague, non, mais on lui a fait un poisson d'avril qui a mal tourné. Comment définir le harcèlement?
Non, le harcèlement, c'est pas la même chose qu'un conflit. Effectivement, il y a une grande différence. Et le harcèlement, c'est une violence, déjà, de la part d'un ou plusieurs enfants à l'égard d'un autre, sur une durée assez longue, avec une intentionnalité.
Oui.
C'est-à-dire qu'à répéter, évidemment, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, ceux qui harcèlent ne peuvent plus ignorer, parce qu'ils voient le comportement de la victime ou de la cible, vous l'appelez comme vous voulez, ils voient le comportement de cet enfant qui change, qui longe les murs, qui veut plus manger avec eux, qui va se planquer à droite ou qui va se planquer à gauche. Donc les harceleurs voient leurs méfaits, entre guillemets, ou les conséquences de leurs méfaits. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, on a du harcèlement. Le conflit, on arrive à le résoudre face à face, quoi.
La cible de ces harceleurs, elle est toujours facile?
La cible,
ouais.
C'est-à-dire.
C'est-à-dire, on va prendre l'enfant qui est le plus mal dans sa peau, on va prendre.
Non. Je crois qu'aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, tout le monde peut être, tout le monde peut devenir la cible.
Victime.
Et parfois, effectivement, le avant le harcèlement commençait, je veux dire dans la cour de récréation ou à l'école, en tout cas, et se poursuivait. Au niveau du cyberharcèlement. Maintenant, le harcèlement peut démarrer en cyberharcèlement et se poursuivre.
Uniquement sur les réseaux sociaux?
Oui, et se poursuivre à l'école, en fait. Dans les deux sens, maintenant. On a la problématique dans les deux sens.
Est-ce qu'il y a un profil type du harceleur?
Non, profil type, il y a des... Moi, je dis toujours qu'il y a des profils à risque. C'est vrai qu'il y a certains types de harceleurs qui sont extrêmement même tyranniques, même chez eux, ou qui ont un ego surdimensionné, pardon. Mais en règle générale, ce peut être aussi des anciens harcelés qui deviennent harceleurs. Et puis, la violence en groupe n'est pas la même chose que la violence individuelle.
Dans le
aussi.
Film,
on le voit très bien.
Dans le film, ce soir, il y a une des étudiantes qui est peut-être la plus méchante et qui en fait le moins entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle est meneuse de bande. Elle pousse les
elle
autres.
Suit, elle suit.
Exact. Non, il y a celle qui suit.
D'accord.
Celle qui lâche les chiens sur les autres. Quoi.
C'est ça.
Celle qui pousse mais qui ne se mouille pas.
Oui. Je sais pas. J'ai pas son nom en tête, pardon, mais qui rousse.
Oui.
Et c'est mais qui ne fait rien concrètement, qui pousse les autres à aller faire des dire des méchancetés.
Vous avez plusieurs,
faire des
photos, oui, vous avez plusieurs.
Une meneuse, quoi. En
vous
fait.
Avez plusieurs types de harceleurs. Vous ouais. avez ceux qui initient effectivement les actes, les gestes, etc. Puis vous avez les suiveurs ou ceux qui sont voilà ceux qui poursuivent les méfaits en juste en riant, quoi.
Alors on dit mais... que le lycée est l'école de la société. Est-ce que ce sont des comportements qui trouvent leur résonance également dans la vie de tous les jours chez entre guillemets dans le monde adulte.
Je crois que la
si
société
d'aujourd'hui, c'est une école de la vie.
La société aujourd'hui est quand même extrêmement violente. Mais moi, ce que je voulais juste dire, je vais me permettre juste de dire, c'est qu'on on voit le harcèlement au niveau du collège. Mais dans le livre de Jonathan Destin, il est bien explicitement décrit que ce harcèlement il démarre en primaire. Et le harcèlement, c'est 12% de harcèlement en primaire et 10% au collège.
Hein. Catherine, est-ce que vous pouvez rester avec nous après les infos de midi
ah
encore
oui,
un tout petit peu
bien
oui,
sûr.
Parce qu'on a encore plein de choses à
sans
dire.
Problème,
et je
ne
voudrais
hein,
pas vous couper la parole sans que vous ayez eu le temps de dire tout ce que vous avez à nous dire sur le harcèlement sexuel, le harcèlement scolaire, pardon.
Tu veux parler quelque chose avec...
Il y a des questions à vous poser sur un autre sujet. Ouais, c'est ça. Daniel n'est pas là, mais je pense qu'il
le
serait fait une petite fête.
Le sujet est
là.
Suffisamment grave pour éviter tout dérapage. Tanguy, ce week-end, l'association L214 a fait filtrer des images d'abattoirs.
Oui, des images atroces car on y voit la chanteuse du groupe Chaka Pong pas coiffée qui introduit les vidéos. Heureusement ensuite, il y a un film plus soft avec des bêtes qu'on découpe vivantes, hein, ce qui permet de dépasser le traumatisme initial. François Drugy a promis qu'il allait réagir, hein, ce qui signifie qu'il va rien se passer.
Bon, et j'embrasse Sam au passage, t'as pas le droit de te moquer de Sam. C'est Chaka Pong, un peu de respect quand même. Ça sera après les infos de midi. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Eva Cadeau-Boudry.
Bonjour à tous.
Jérémy Crédit, Tom Villard,
bonjour.
Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Nos invités Camille Chamou et Mickaël Youn. Et Catherine Verdier, dont nous allons, avec laquelle nous allons reparler à nouveau du harcèlement à l'école. Je rappelle, ce harcèlement scolaire est un sujet grave, toujours d'actualité. C'est pas parce qu'il y a un film qui passe ce soir 21h, on se dit ouais, c'est réglé. Loin de là, malheureusement, 700 000 enfants victimes de ce harcèlement, et ça sera à 21h ce soir sur TF1, le jour où j'ai brûlé mon cœur. Mickaël,
je crois, si je ne m'abuse, que jeudi c'est la journée nationale du harcèlement
Exactement.
Scolaire.
Exactement. Absolument.
Il n'y a pas non plus de diffusion, TF1, ils ont réfléchi, ils mettent pas ça un lundi, comme ça, je me dis tiens.
Et quand bien même,
oui.
Peu importe.
Non mais ils m'énervent.
Ouais.
On est d'accord, tu parles de moi. Hein. Voici ton Tanguy Pastureau. Tanguy, vous aimez manger bio comme moi?
Oui, Naguier, ça se voit, mon corps plein de santé, bourré de tenues, élancé. Les gens m'appellent l'étalon breton. Je ne mange que des produits sains, des ananas bio cueillis par des petits paysans qui, avant de l'emballer dans un carton recyclé, font un bisou à chaque fruit tellement ils aiment ce qu'ils font. S'ils pouvaient, ils lui feraient l'amour. Seulement l'ananas pique. Mon conseil est plutôt s'accoupler avec un abricot, le végétal qui ressemble le plus à des fesses. Et c'est très doux quand on est dedans. Je le dis pour égayer un peu les rayons trop austères des magasins Naturalia. Le bio m'a permis de découvrir le boulgour, le quinoa, le lupin, l'épeautre. J'ai plus bouffé de graines qu'une poule de louée. Si à un moment je pousse un petit cri, c'est que j'aurais pondu un œuf. Et la viande bio, on a en tête l'image d'une vache seule dans un pré immense avec à dispo plus d'herbes que n'en a roulé le groupe Cypress Hill sur 30 ans. Vache se faisant masser par un fermier qui murmure dire que je devrais être en train de féconder la vieille figue, m'a refourgué la mère Le Marchand. Si je fais ça, c'est pour la cause du bio. Mais moi, vous me dites bio, j'imagine des moutons épanouis qui sautent des barrières en bêlant pour endormir des veaux qui se disent non, je résiste au sommeil. Ma vie est un tel kiff qu'il est hors de question que j'en perde une miette. Je me sens comme une Miss France à qui on vient d'annoncer qu'elle avait un ver solitaire et qu'elle allait pouvoir se nourrir de tartiflettes. Et en fait, non, on nous a pris pour des cons, c'est une horreur. Bio ou pas bio, c'est le même topo, ça finit en carnage. Quand je passe devant le McDo, j'ai envie de chialer. Ce week-end, L214, une association qui fait des snuff movies d'animaux, a diffusé une vidéo insoutenable. À côté, une sextape où on verrait Jacqueline Moureau, la Louise Michel du plein à la pompe, se dessaper devant Dominique Chapat de Turbo en lui disant « Toi, au moins, tu me comprends, mon goré ?» Ce serait que dalle. Le truc a été tourné dans un abattoir de l'Indre et on voit des bêtes se faire découper vivantes, suspendues en train de se débattre et de hurler, car les bêtes hurlent dans les abattoirs. Vous mettez côte à côte Adèle, plus Céline Dion, plus Muriel Robin, à qui vous venez de dire que la GPA, ça pose quand même des problèmes éthiques, vous n'obtenez pas la moitié du cri que pousse pousse un bestiau à l'abattoir. Et là déboulent des ordures qui les découpent en vie, parce que ce sont des ordures, animées du même vice que le curé qui balancerait Didi de Raled en pleine cérémonie funéraire de Jean-Marie Le Pen quand il cassera sa pipe. Moi, je préfère 100 fois me prostituer pour bouffer que de bosser dans un abattoir. Bon, après, il y a la réalité du terrain, qui est que le client préférera toujours une petite roumaine de 19 piges à moi. Hein, d'autant qu'il faut travailler dans les bois et que j'ai horreur des insectes et des capotes usagées. Alors, quand on soulève une capote et qu'en dessous, il y a une blatte, je hurle.
Alors, cet abattoir certifié bio, pourtant, avait déjà été épinglé en 2016.
Oui, mais tout le monde s'en tape. Et il faut comprendre les gens. On parle de règles de bien-être animal à appliquer dans des lieux où on va les buter. C'est bâtard. Qu'est-ce qu'on va faire? Les faire fumer une dernière clope? Leur dire, tu sais, Louis XVI, Saddam Hussein sont passés par là aussi. Et eux n'ont pas fini en bâton de berger, c'était des morts inutiles. La tienne va donner lieu à une soirée tapas hyper sympa. Hein, le bien-être animal, c'est juste foutre la paix aux bêtes. À la rigueur, quand une vache a des flatulences, lui dire, wesh, grosse, déjà, ça se fait pas. Et après, oh, ça rejette du méthane qui flingue la planète. Et c'est tout. À partir du moment où on les prend, qu'on les entasse dans des camions, parfois le chauffeur écoute Fun Radio et la dernière chose qu'ils entendent, c'est Bob Sinclair, c'est de la torture. Et qu'ensuite on les découpe, on n'est plus dans le bien-être. Et tout ça pour finir par lâcher 60 euros à l'hippopotamus, à faire bouffer des steaks à des gosses 15 fois moins beaux qu'un agneau. Et plus con, hein, en 12 heures, l'agneau il tient debout. Nos enfants à nous, ils végètent 18 mois dans un trotteur avant de comprendre qu'ils ont des jambes, c'est loser. Alors, il y a eu des réactions, celle du directeur de la FDSEA de l'Indre, hein, qui a dit de la vidéo de L214, c'est du lynchage. Derrière ces images, il y a des hommes qui travaillent. Ah bah oui, ils travaillent bien. Ils découpent avant d'étourdir. Si on les laisse faire, ils découperont même plus. Et chez Pika au rayon viande, un jour, un porc décongelé se réveillera. Ce sera Hibernatus revisité par Herta. Didier Guillaume, le ministre de l'agriculture inconnu qui a succédé à l'anonyme d'avant, a dit qu'il suspendait l'activité de l'abattoir. Donc je suggère qu'on le ferme, hein, parce qu'avec ce qui s'est passé là-dedans, niveau feng shui, ça équivaut à édifier sa maison phénix sur un ancien cimetière indien. Et François de Rugy, l'écologiste en plastique, a déclaré qu'il faut contrôler les abattoirs en continu. Donc ça veut dire mettre des caméras en live H24, comme à Secret Story naguère, mais avec des êtres QI supérieurs, les vaches. Hein. Or, en mai dernier, les députés En Marche ont rejeté un amendement prévoyant l'obligation de la vidéosurveillance. 9 ont voté pour, 9 sur 308, les 9 qui n'avaient pas reçu leur cadeau des lobbies. Le livreur Chronopost chez eux a marqué absent alors qu'ils étaient là, ils n'ont pas eu leur enveloppe. Et la vidéosurveillance obligatoire figurait dans les promesses du candidat Macron. Mais lui-même doit avoir 15 potes bien placés dans le business de l'élevage et 0 pote mouton. Hein, donc, il a fallu trancher. Trancher, blague d'abattoir. Bref, la viande bio, c'est de l'arnaque. Il y a le fantasme, hein, la bête est dehors à la cool. Et la réalité, on la trucide vivante. C'est comme sur Adopte un mec, quand on a sélectionné Joachim, 35 ans. Éco-dating, on voit qu'il avait 35 ans. Il y a 35 ans. Moi, je retourne à mon quinoa. C'est dégueu, mais si tout le monde s'y met, on met fin à cette horreur.
Merci Tanguy Passion. Le jour où j'ai brûlé mon cœur, un film en deux parties, ce soir sur TF1 à 21h avec Camille Chamou, Michael Youn et puis des adolescentes et adolescents qui jouent extrêmement bien. Ouais. Parce qu'on s'y, voilà, on s'y croit, on est replongé dans cette école. Où on parlait avec vous, Catherine Vernier, tout à l'heure du quotidien. Voilà, on envoie une photo, un texto, un truc sur un réseau social et puis d'un coup ça prend une ampleur, on fait le mal. Et ça devient du harcèlement. Ça peut partir de rien, le harcèlement.
Ça peut partir vraiment de rien.
C'est détail.
Pour ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de profil type de la cible.
Ni du harceleur, ni de la victime du harcèlement.
Non, surtout pas de la victime en tout cas. Il y a des profils à risque, c'est ce que je dis.
Le profil type de la victime, c'est celle qui ne parle pas.
Il y a des enfants qui ne parlent pas et qu'on laisse tranquille. Donc voilà, maintenant ça dépend de beaucoup de choses. Moi je parle de situation de harcèlement plus que de harcèlement scolaire, c'est-à-dire que chaque situation est différente. Vous avez des classes où l'ambiance est détestable. Ouais. Un même enfant qui est harcelé dans une classe, quand il fait des activités à l'extérieur, extrascolaire, il a aucun problème avec les autres. Donc il y a aussi le problème de l'ambiance scolaire. On parle beaucoup de climat scolaire en ce moment, de l'environnement. Donc voilà, il y a pas de profil type de.
Vous avez vu le film qui passe ce soir, comme nous, on a eu cette chance de le voir avant qu'il soit diffusé. Vous y retrouvez justement ce qui se passe réellement dans les écoles.
Il y a tous les ingrédients terribles, effectivement.
On aimerait que tous les CPE, avec tout le respect que je dois aux CPE,
ce serait bien. Hein.
Mais ça serait bien.
Oui, ah oui, ce CPE serait vraiment bien.
Hein. Oui, merci.
C'est un personnage.
J'ai fait que mon travail, vous savez, humblement.
Non, mais oui, effectivement.
Mais c'est vrai aussi qu'à leur décharge, les CPE ne peuvent pas.
Ça relève aussi de la fiction, parce que le CPE ne peut pas s'occuper d'un cas comme ça pendant deux semaines non-stop avec je ne sais pas combien d'élèves dans un établissement. C'est aussi ça.
Non, par contre, on peut monter. À part le mot brigade, mais un staff qui soit formé, une équipe voilà, qui soit formée à ça et qui prenne en charge quand il y a une situation qui est soupçonnée ou avérée.
Le harcèlement, en tout cas dans l'histoire de Jonathan Destin, ça se passe des deux côtés. On le disait, à la fois pas d'écoute du côté de l'école, à la fois pas d'écoute du côté de la famille. Et c'est là où les enfants vont sur Internet et pensent au...
Pense au suicide. Oui, ouais. C'est très facile de trouver des informations. Je veux pas faire d'incitation au suicide, mais c'est très facile de trouver des informations là-dessus, quoi. Comment on fait, etc., etc. Enfin, c'est terrible.
C'est
aussi,
trop facile,
ça.
Même. Ouais.
C'est terrible.
Ouais. Mais il y a un truc très intéressant d'ailleurs sur ce que vous dites là, Tagui. C'est-à-dire, c'est à la fois à l'école et à la maison, et c'est aussi ce dont parle. Il y a une scène entre justement Michael et moi dans le téléfilm entre la maman et le CPE et où ils se disent on est tous responsables et donc ça c'est quand même le message que porte le film et qu'on devrait diffuser, c'est que même en tant que parent votre enfant est pas forcément harcelé mais vous pouvez lui demander comment ça se passe et s'il y a dans sa classe des gens qui, ouais, des enfants qui sont harcelés.
Alors deux, trois fois la maman dit, est-ce que ça va? Est-ce que t'es sûr? Est-ce que t'as un truc à me dire? Mais il ne dit rien.
C'est plus loin que ça.
Et le papa est un peu dans le déni. On a le sentiment, en tout cas, dans le film.
Exactement.
Je ne me permettrai pas de juger
du
papa, voilà. Mais on a le sentiment que le papa qui fait de la boxe, qui fait du sport, qui est fit, ne voit pas d'un très bon œil le surpoids de son fils. Et il y a un petit côté rejet,
exact,
en tout cas, manque d'amour.
Ouais, exactement. Et s'imagine qu'il est un peu responsable ou qu'il allait déjà pas bien ou que voilà. Mais il y a autre chose dont parlait Catherine Verdier tout à l'heure, c'est que ça commence très très tôt. Moi, on m'a raconté récemment une histoire complètement folle d'une petite fille qui était harcelée au CP et j'étais là, oulala, moi j'ai un enfant de 3 ans et demi qui est en première section de maternelle.
Au CP.
Mais si vous voulez, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand votre enfant est tout petit, quand il rentre, vous lui demandez comment ça va à l'école, elle est gentille, la maîtresse, point. C'est-à-dire que jamais vous allez dire à votre enfant qui a 5 ans ou 4 ans ou 6 ans, et ils te font du mal, tes petits camarades, ça ne vient même pas à l'esprit. Alors qu'en fait, ça commence super tôt. Et c'est un truc à savoir parce qu'il faut parler
affaire,
tôt.
Une affaire de viol en maternelle entre... il y a 3 semaines.
Oui, j'ai lu ça, je connais pas l'histoire, donc je veux pas m'aventurer là-dedans. Mais c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, juste avant la coupure, c'est qu'il y a 12% de harcèlement en primaire, 10% au collège.
Ouais. Et on s'imagine pas, c'est très intéressant, il faut que les parents soient au courant de ce truc pour en parler.
Alors au collège, on est plus dans du cyberharcèlement.
Ok, et plus du tout en lycée, c'est-à-dire qu'on est
trop grand. Au lycée, il y en a 4 ou 5, je crois.
C'est-à-dire que plus ça va, plus on grandit, plus on se défend ou plus on sait qu'il faut communiquer. C'est finalement, il faut libérer la parole le plus tôt possible.
Alors, il faut libérer.
Maternelle, on n'imaginerait pas qu'il se passe des choses en maternelle.
Il y a plusieurs choses, oui, effectivement. Il faut libérer la parole, il faut bien garder le contact avec ses enfants si c'est possible. Et puis, on a aussi dans ce film, il y a deux choses dans ce téléfilm qui m'ont vraiment frappée. Ce sont les témoins. C'est-à-dire tous les enfants. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'acteur enfant ici ce matin, mais il y a
Michael.
Oui, d'accord.
De toute façon, c'est du harcèlement, ça. C'est du harcèlement radiophonique, ça peut aller très long. C'est du pénal. Hein. Ça relève du pénal. Hein.
Donc il y a la force négative de ces témoins où personne ne bouge, personne ne fait rien. Ils savent pas. Oui, c'est ce que je dis. Personne ne bouge, personne ne fait quoi que ce soit. Et en fait, ces témoins. En fait, si vous prenez les chiffres, vous avez une victime, vous avez un harceleur, d'accord, dans une situation, plus 3 ou 4 en moyenne, autres élèves.
Complices, quoi.
Voilà, qui sont là.
Il y a les témoins passifs et il y a les complices actifs.
Les témoins actifs, effectivement. Ouais. Donc, ça fait... Et vous avez tous les autres, en fait, tous les autres qui sont juste là à regarder et qui bougent pas
et qui veulent pas avoir d'ennuis.
Et si
aussi.
Si ces autres là
qui ont peur que ça retombe sur eux,
qui la place de la victime,
non, mais la bande, mais
la, la force du la force, on parlait de la force et de la violence du groupe, mais la force du groupe, elle peut être aussi extrêmement positive, c'est-à-dire si on arrive à retourner ça, si on arrive à travailler avec les témoins,
ce qui se passe un tout petit peu dans le film aussi, c'est-à-dire que d'un coup il y a dans le film la cour se met à conspuer, à insulter, à s'en prendre à l'une des personnes qui était
tout à fait
du côté des harceleurs et en l'accusant, en devenant violent.
Tout à fait. Maintenant, on peut faire les choses autrement.
Est-ce que les harceleurs peuvent devenir aussi victimes de harcèlement? C'est-à-dire, est-ce que, comme malheureusement on le sait, tout à l'heure, on peut parler aussi d'inceste ou de violence comme ça. On sait que ce sont les victimes aussi qui reproduisent ce genre de schéma. Et que le premier travail des psys est d'expliquer aux victimes d'inceste que ceci n'est pas normal pour pas que plus tard elles deviennent
C'est pas de leur faute.
Et c'est pas de leur faute, et que surtout plus tard elles ne deviennent pas agresseurs et qu'elles ne recréent pas,
qu'elles ne reproduisent pas effectivement les mêmes situations.
Est-ce que c'est pareil pour
la femme? Il y a des victimes, oui, il y a des victimes qui deviennent agresseurs parce que c'est plus facile d'être dans le groupe des agresseurs. Ça fait moins mal quand même d'être dans le groupe des agresseurs que d'être une victime. Quoi.
Alors vous dites qu'il faut agir plus vite et plus fort. Il faut faire quoi?
Oui. Ce matin j'ai sorti une tribune là dans le Post. Effectivement, il faut. On se rend compte de l'ampleur du fléau. Là, je vous donne des chiffres, mais en fait les derniers chiffres qui sont sortis de l'UNESCO, c'est quand même
264 millions.
Un ado sur trois.
Ouais, un tiers dans le monde.
Dans le monde.
Victime de harcèlement.
Donc un sur trois, c'est énorme.
Ça veut dire qu'il y a deux tiers de harceleurs ou non?
Je suis pas très forte en maths, je vais laisser calculer.
Non, c'est une mauvaise blague.
Il y a des spectateurs aussi.
Et ça relève du pénal systématiquement?
Non, pas du tout.
Pas du tout, jamais?
Non.
Qu'est-ce qu'il faut pour que ça relève du pénal?
Il n'y a qu'en France où il y a une loi, la loi de 2014, donc, où ce sont les enfants de plus de 13 ans qui sont susceptibles d'être attaqués.
Le problème, et on n'est pas là pour montrer du doigt des responsables, c'est que la parole de l'enfant n'a pas la même valeur que celle de l'adulte, que ce soit pour l'inceste, que ce soit pour le harcèlement, que ce soit pour les agressions sexuelles, que ce soit pour les viols. Il y a quand même des enfants qui portent plainte et c'est classé sans suite parce que les tribunaux ont autre chose à faire.
À ma connaissance, il n'y a aucun enfant n'a été...
condamné pour harcèlement.
Oui. D'accord. À ma connaissance, mais
même Jonathan, ça a été classé sans suite.
Oui, tout à fait.
Mais est-ce qu'on n'a pas fini par savoir qui.
Et puis parce que c'est trop compliqué. Qui a dit quoi, à quel moment? Moi j'ai dit ça parce que lui avait dit ça, qui avait dit. Mais bon, c'est pas entre
puis
guillemets.
Dans quelle
c'est
ce mesure que, moi, ce ça conduit à ce
exactement,
geste-là.
Exactement. C'est ce que j'ai dit à Jonathan. C'est pas eux qui t'ont immolé.
C'est ça.
Ça existait quand même avant. On parle de cyberharcèlement. Ça existait avant que les réseaux sociaux existent, le harcèlement à l'école.
Le harcèlement existe. Oui, vous avez des exemples de poils de carotte. Dans la guerre des boutons, etc. Où c'est quand même assez violent, hein, si vous regardez un peu les...
Qui est un livre autobiographique, en plus, Poil de carotte. Mais c'était déjà sa mère qui commençait à le traiter comme
tout
ça.
Tout à fait, tout à fait. Donc ça, non, ça existe maintenant. Comme vous le disiez, les chiffres, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres de l'UNESCO, d'accord. Donc un ado sur trois, c'est quand même énorme. Ça devient un problème
de
société.
Tout ne vient pas du portable, tout ne vient pas de
Et c'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on s'y prenne dès la maternelle, en fait, à partir du moment où les enfants y mettent les pieds en collectivité.
Alors faire quoi concrètement?
Il faut leur apprendre ce qu'on appelle les compétences psychosociales, à exprimer ses émotions. À travailler ce qu'on appelle l'empathie, à travailler ce qu'on appelle l'estime de soi. Ouais. Mais l'empathie, il faut savoir qu'il y a des expériences, ce qu'on appelle des expériences sociales qui ont été faites, où on prend un bébé, un tout petit bébé de 18 mois, il a mangé, il est en bonne situation, etc. etc. Il est dans une pièce où un adulte, il est seul avec un adulte, et puis l'adulte laisse tomber son... je sais pas, une pile de livres ou son crayon, l'enfant, il va aider l'adulte. Ouais. Donc l'empathie existe. Après, on a dit, c'est parce qu'il n'avait rien d'autre à faire, l'enfant. Donc ils ont mis une piscine avec des petites balles et des jeux, etc. etc.
Des occupations.
Même expérience, l'adulte fait tomber sa pile de livres ou n'arrive pas à ouvrir une porte, le gamin, il sort de sa piscine de bulles, il sort. Hein.
Toujours pour
l'aider. Donc il était quand même quelque part, il n'était pas complètement libre, il avait quelque chose de...
Ah oui, donc ce serait un truc qu'on perdrait, en fait, l'empathie.
Je ne sais pas où elle passe, quoi. Et on le voit très très bien dans le téléfilm. Elle est où, l'empathie? Ouais, il faut aller quand même très, très, je veux pas spoiler le téléfilm, mais jusqu'où doit aller
Il y a une des comédiennes qui dès le début du film, là on spoil pas, qui
parle du garçon en particulier, du garçon en particulier, jusqu'où il faut aller pour que cet enfant se rende compte, cet élève se rende compte de ce qu'il a fait, quoi.
Et encore, c'est que dans la fiction. Comme l'a dit tout à l'heure Michael, c'est que dans la fiction. J'aime les autres, les bonnes relations à l'école, c'est aux éditions du Rocher, signé Catherine Verdier. Merci d'être
venue. Merci à vous. Merci à vous.
Éclairer cette émission. Ce soir, donc, le jour où j'ai brûlé mon cœur. On parle un tout petit peu de l'avenir et de ce qui se passe dans les semaines ou dans les mois qui viennent, Camille Chamou, parce que justice...
Bah, il est dans le coma et donc... dans la vie.
D'ailleurs, il va de mieux en mieux, Jonathan, on peut le dire quand même, et il est très content que ce téléfilm soit fait et qu'on parle de son histoire, que ce soit surtout un pont pour que ça arrive moins.
Puisque les parents, je le rappelle, ont cette association et veulent aider et informer surtout tous les élèves comme les parents et comme les professeurs à plus communiquer. Revenons à vous, donc immense succès pour Justice. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Camille?
Alors,
le théâtre, non?
Oui, tout à fait, je reprends le théâtre cette année. Je vais jouer au Rond-Point en juin. Classe. Avant ça, j'ai un film auquel je tiens beaucoup parce que je l'ai écrit avec mon conjoint.
Première Vacances ?
Première Vacances qui sort le 2 janvier. Et je suis en train en ce moment...
Vous l'avez coécrit et co-réalisé ou réalisé ?
Non, je ne l'ai pas du tout réalisé, je l'ai co-écrit et je joue dedans.
Et qui réalise alors ?
Ben c'est lui.
Mon conjoint, Patrick Cassel.
Oh là là, c'est pas possible.
Je croyais qu'ils avaient co-écrit, point.
C'est ringard de dire mon conjoint, mais en même temps, c'est un peu...
Mais enfin, ça te va bien.
Tu vois, c'est légèrement ringard, Patrick.
Ça fait un peu procédurier quand même.
Mon conjoint.
Avec mon Paxé. Je l'ai écrit avec mon Paxé.
Mon partenaire de passe.
Vous êtes avec Jonathan Cohen, c'est ça?
Et c'est Jonathan Cohen et moi.
Qui n'est pas avec son conjoint.
Le duo principal. Et il y a également Vincent De Dienne, Camille Cotin, ma grande copine. Il y a également Jérémy Elkaï. Voilà, il y a plein de gens super.
Un pur casting, très bien. Et alors, vous êtes quoi? Vous êtes en couple, Jonathan et vous?
On se rencontre au début du film sur Tinder et on décide, en pensant que c'est la cerise sur le gâteau de notre rencontre géniale, on décide de partir en vacances ensemble.
C'est bien
et
en fait, le thème.
C'est un peu le thème du film, ne crois pas que les vacances sont la cerise sur le gâteau, c'est la pire épreuve du couple. Les vacances.
Et c'est bien parce que c'est très complémentaire avec le film que vous venez de réaliser, Miguel Youn, puisque c'est Divorce Club.
Oui, là c'est tout. Ah oui, ce sont deux potes divorcés qui se retrouvent.
Arnaud Ducré et François-Xavier
de Maison qui se retrouvent 15 ans après leur dernière année ensemble de fac. Et il s'avère que tous les deux viennent de divorcer. Et ils décident de créer un club de divorcés, un divorce club, pour profiter des joies du célibat. Voilà.
Totalement autobiographique?
On en met toujours un petit peu.
On entend ta mère.
C'est même pas du tout. C'est pas ça la réalité.
Ça n'a rien à voir.
Et le
film... Le divorce est une fête en fait. Il suffit de se le dire. Le divorce est une fête et la principale cause du divorce, ne l'oublions pas, c'est le mariage.
Il sort quand ce film?
Quand j'aurai fini de le monter. Là, je suis en montage à l'heure où je vous parle. Je ne suis même pas dans les studios, je suis chez moi.
Très bien.
À Quimper.
Le 24 avril, là, vous n'avez pas de problème de post-production puisque c'est Éric Lavenne qui travaille sur Chamboule-tout, un film avec Alexandra Lamy, José Garcia et vous.
Oui.
Qu'est-ce que vous y faites?
C'est l'histoire d'un José a eu un accident de scooter et pendant lequel c'est une comédie, je préfère préciser dès le départ. Il a perdu la vue malheureusement pendant cet accident, mais il a aussi perdu tout filtre. Donc, le gars dit exactement tout ce qu'il pense, tout le temps, sans aucune hypocrisie. Et évidemment, ça va chambouler la vie de sa famille, mais la vie de ses amis, en particulier la mienne. Puisque moi, j'ai pour habitude de tromper ma femme, ça n'a rien à voir avec Divorce Club. J'ai pour habitude de tromper ma femme.
Dans
et,
le film
Ben oui, dans la réalité, c'est l'inverse.
Un petit coup de Damien Rice.
Et donc, il me balance à chaque fois.
Ce soir, le jour où j'ai brûlé mon cœur, je rappelle, c'est l'histoire vraie de Jonathan Destin, portée à l'image par Camille Chamou, Michael Youn, mais également tous ces comédiennes et comédiens comme Camille Aguilar, qui est formidable, Manon Brecht, tout aussi impressionnante, Martin Dakin, Baptiste Florial, Luna Lou, j'espère que je prononce bien, Marie-Julie Baupe, Francis Renaud, enfin bref, tout ça, ça passe ce soir à ne pas manquer sur TVF1. Des excuses à présenter, Jérémy.
Exactement, oui. Désolé pour les gens en souffrance qui auraient pu attendre un soutien, une marque de sympathie de Michael Youn. Vous l'avez compris, c'est pas le style de la maison. À la pause, je l'ai même vu voler le goûter d'un enfant en fauteuil roulant. Vous imaginez le salaud. Désolé également pour les Inrock qui ont découvert que Michael Youn leur avait menti lors d'une interview. Les gars, ça aurait pu être pire. Il aurait pu faire comme dans les hôtels de Lille et faire caca dans vos couloirs. Désolé enfin pour Pascal Obispo, hein, on l'a appris. Il subissait régulièrement la blague du petit-déj commandé par Michael. C'est du harcèlement. Ouais, c'est alors, pour l'excuser, Nagui vous propose, Pascal, un taratata spécial avec Black M et Anne Romanoff en duo, bien sûr.
Pascal fera son taratata le 21 décembre. Merci de faire la promotion de taratata. C'est très bien, plaisir. Jérémy, tu peux rester. Ce soir, 21h, TF1. Voilà, comme ça, on aura parlé de toutes les chaînes. Merci Camille Chamou, merci Michael Youn d'être venu. Merci encore à Catherine. Ce soir, le rendez-vous, j'ai brûlé, le jour où j'ai brûlé mon cœur.